I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Camille Ferré, Virginie Leduo et Boris Spino. Prise de son ce soir, Olivier Dupré. Réalisation, Daniel Fineau. Ce soir, Étienne de Montetti et Philippe Chevillier se font face à notre affiche La nature exposée de Éric et Luca chez Gallimard, Révoltée de Yevgena Yaroslavskaya-Marcon au Seuil et En présence de Schopenhauer de Michel Houellebecq à Lerne. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour parler du Salon du Livre de Paris. Un grand salon dans un petit salon. Comme c'est mignon. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des hors-série Télérama Jardin, actuellement en kiosque. Bien sûr, en lien avec la très belle exposition du Grand Palais, un hors-série qui retrace 6 siècles de création autour du jardin. Et nous ouvrons cette émission. Je suis resté dans les jardins, moi. Je crois que j'ai encore envie d'y retourner au Grand Palais. Non, on ouvre cette émission avec le nouveau livre d'Éric et Luca, un roman, cette fois, intitulé La nature exposée, paru chez Gallimard. L'exposition, elle est là aussi. On verra de quelle nature elle est. Dans une traduction de Daniel Valin. J'habite près de la frontière, au pied des montagnes que je connais par cœur. Je les ai apprises en chercheur de minéraux et de fossiles, puis en alpiniste. Le commerce de ce que je trouve et de petites sculptures en pierre et en bois me procure un gain aléatoire. Je grave des noms pour les amoureux endurcis qui les préfèrent sur des branches et des cailloux plutôt que sur des tatouages. Ils durent plus longtemps sans pâlir. Je cherche des racines sèches, des pierres qui ressemblent à des lettres de l'alphabet, faciles à dénicher, celles en forme de cœur, en remontant le lit des torrents à sec. Les autres formes plus irrégulières, je les trouve dans les pierriers, où s'entassent les débris de parois. Dans la nature, il existe des abécédaires. On fait appel à moi pour de petits travaux de réparation de sculptures, le plus souvent dans des églises. Chez nous, on tient à impressionner avec des décorations d'artistes. Moi, je n'en suis pas un, je répare des nez, des doigts, les parties les plus fragiles. Quand j'étais jeune, j'ai pu étudier au lycée artistique, le bac en poche. Je suis parti travailler ensuite à la mine de charbon. Depuis qu'elle a fermé, je me débrouille avec ce que je trouve. Je sortais de mes heures de travail dans la galerie et au lieu de descendre au village, je grimpais dans la montagne. Poussé par un désir de neige, je me lavais les mains et le visage avec. Je montais en courant dans le bois, une saine transpiration sortait par tous les pores de ma peau. Je me hissais dans les branches d'un pin sambro en me poissant les mains de résine. De la scène la plus haute, je regardais l'horizon pour me débarrasser de la mine. Un ébrouement de chiens sortis de l'eau parcourait mon dos. J'ai gardé mon admiration pour les artistes, un sentiment de spectateur et non de collègue. Proche de la soixantaine, je monte encore bien sur les échafaudages et les montagnes. J'habite la dernière maison hors du village. Pour moi, c'est la première en descendant des bois, à quelques mètres d'une petite cascade qui me donne de l'eau courante. Un petit filet coule, même quand il gèle. Ainsi commence ce texte, La nature exposée, même s'il y a une préambule, une préface, de l'auteur lui-même, ce qui est quand même plutôt rare pour un, pour une nouveauté, mais qui est rééduqué, d'abord payant son tribut à quelqu'un qui lui a raconté une histoire, qui donne naissance à ce roman, mais pour dire aussi que, voilà, l'écriture est, est revenue et s'est réimposée à lui au terme de ce long parcours judiciaire. Il y en a beaucoup en ce moment, des longs parcours judiciaires qu'on a pu suivre. Il a été, on le rappelle, au tribunal pour ses propos contre la ligne TGV Turin-Lyon. C'est au sortir de ce long épisode judiciaire qu'Éric Lucas a écrit « La nature exposée ». Philippe Chevillé, pour commencer sur ce livre d'Éric Lucas.
Alors effectivement, c'est un roman de fin de procès et on a l'impression que là, cette façon de renouer avec l'écriture, c'est de mélanger pas mal de choses, pas mal de thèmes qu'il affectionne. Alors c'est quand même d'abord un roman théologique. Hein, et, il le dit lui-même dans la préface, la nature exposée, on va retrouver ce montagnard sculpteur dans une église après un périple, dans une église de bord de mer, où là, il va être chargé par un prêtre de restaurer un Christ en croix, qui a été revêtu d'un affreux pagne au moment où il fallait couvrir la nudité des statues. Et on va lui demander de restaurer, mais en restaurant, il va devoir briser cette nature exposée, la remplacer, et il va découvrir sur les images d'époque que cette nature est en majesté, c'est-à-dire que le Christ a une légère érection, puisque c'est au fond la représentation d'une mort comme ça, tragique et sanglante, ou le dernier spasme du martyr qu'a voulu le sculpteur. Donc ça, c'est pour donner un peu le cadre, mais autour de ça, en fait, il y a plein d'histoires. Puisque
parce qu'avant d'en arriver là, il s'en passe,
des choses.
Dans ce très court roman, pourtant. Hein.
Un court roman, c'est un petit roman monstre, d'une certaine façon. Parce qu'on a à la fois donc une réflexion sur la nature du Christ et de la foi, une réflexion sur l'art. Le sculpteur est-il simplement un artisan, où commence l'art, où il finit. On a une histoire d'amour qui intervient à un moment donné, qui finit presque comme un thriller, avec une femme un peu mystérieuse. On a un livre très politique dès le départ, puisque le sculpteur est aussi un passeur de migrants, mais c'est un saint passeur, puisqu'il ne le fait pas payer, il les rembourse à la fin sans le dire à ses camarades. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être expulsé de son village, parce qu'il ne joue pas le jeu. Ça brasse tout ça à la fois, et sans parler des lieux, puisqu'on est à la fois à la montagne, c'est un fan d'alpinisme, donc on sait bien qu'il aime la montagne, et puis la mer, donc cette ville de bord de mer, et il y a même un petit détour par Naples au moment où il va se faire circoncire pour être comme le Christ sur la croix, humain, qu'il veut approcher au plus près pour réaliser sa restauration. Alors moi, j'ai toujours cette impression, et surtout sur ce livre-là, on se demande si c'est finalement un livre d'un mystique qui parle aux athées, ou d'un athée qui parle aux mystiques ou aux chrétiens. En même temps, lui, il dit qu'il n'est pas athée, hein, il dit qu'il est non-croyant.
Mais on sait très bien aussi qu'il commence toutes ses journées depuis 30 ou 40 ans en lisant la Bible.
Absolument,
c'est Lucas.
Sa passion des saintes écritures, et depuis très longtemps. On a dans ce roman en particulier, mais on le retrouve peut-être évidemment dans d'autres, cette volonté de ramener la foi à quelque chose de plus humain, de ramener vers l'humanisme. Et je crois que le réussit assez bien toute cette partie-là, toute cette métaphore du Christ presque vivant, puisque le sculpteur en question à l'origine, qui est un artiste, a connu la guerre et veut représenter un martyr qui soit le plus proche des hommes. Et je trouve ça assez beau, cette façon qu'il a de montrer cette foi qui va vers la terre, vers la chair et vers le sang plutôt que vers le ciel. Ensuite, bon, il y a la poésie du livre.
Vous allez y revenir. Vous avez donné déjà beaucoup des thématiques, évidemment. Mais c'est vrai que l'histoire est importante, mais il y a un écrivain. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Mais on va d'abord découvrir les premières impressions d'Étienne de Montetti sur ce livre d'Éric de Lucas.
Elles sont voisines de ce que vous venez de dire. Hein. Ce sentiment de grande profusion de thèmes, d'un livre qui, pour le lecteur, cherche un peu sa trace. On est au début parti effectivement dans la montagne pour cette histoire de passeur.
De passeur bénévole,
voilà. Et puis ensuite, cette entreprise étrange de redonner au Christ une allure plus primitive, si j'ose dire, avec le retrait de la joue sulpicien du pagne. On peut quand même se dire que ces deux sujets peuvent être associés, ces deux manières pour le saint effectivement le saint sans Dieu. Hein, j'ai retrouvé une phrase de Camus qui disait « être un saint aujourd'hui sans croire », et c'est vraiment le seul problème moderne que je connais, je sais plus très bien la phrase. Voilà, comment faire le bien sans forcément être poussé par la ou inspiré par la transcendance. Le passeur, c'est celui qui fait les œuvres, et puis à travers cette œuvre christique, dont il épouse véritablement la cause, il y a des réflexions sur la souffrance qui sont très très fortes, et d'ailleurs effectivement il est pris par un sentiment de miséricorde, comme avec d'ailleurs ces malheureux migrants, même si rien n'est nommé dans ce livre, hein. Il y a pas de nom, il y a pas de nom propre, et il y a pas de référence à des situations politiques ou etc. Spécifiquement nommées. Mais enfin voilà, il passe des gens de l'autre côté de la montagne. Tout ça, on est dans la parabole. Il fait le bien par les œuvres, par la foi, et ça donne tout en reconnaissant son caractère un peu iconoclaste, un peu athée. Donc ça donne un personnage extrêmement attachant. Le livre est effectivement un peu désordonné, mais quand on suit ces deux thèmes et qu'on lit attentivement De Lucas, c'est vrai que c'est tout à fait passionnant. Effectivement, il lit beaucoup la Bible, et à un moment donné, il a des réflexions très intéressantes sur est-ce que la Bible, provoque sur les lecteurs un sentiment différent d'une lecture qui est aujourd'hui pour nous profane, comme par exemple l'Odyssée. Et il réfléchit à savoir si ces deux si c'est la même lecture, au fond quasiment littéraire, si la dimension sacrée, pour la Bible, pour les chrétiens, l'Odyssée, il n'y a plus beaucoup de Grecs anciens qui y verraient une lecture divine. C'est un sujet très intéressant, il me semble que Saint-Augustin l'aborde aussi, entre les lectures profanes et puis la lecture du livre. C'est absolument passionnant. Il y a encore un autre sujet, et c'est certainement encore Éric de Lucas qui passe, c'est à propos effectivement de cet homme qui fait le bien dans son village, mais qui ne veut pas que ça se sache. Et qui s'en va, oui, parce qu'il est proscrit, mais aussi parce qu'il a été un peu trahi. Un écrivain s'est mêlé à son convoi et a raconté qu'il y avait un type extraordinaire qui, dans la montagne, faisait le bien. Et ça, il déteste. Et il pose la question...
Il déteste parce qu'on veut l'interviewer, voilà. Les médias s'en mêlent.
Et il pose la question, est-ce que le bien est compatible avec la célébrité? Est-ce que... je sais pas si c'est pas Saint-François de Sales qui disait « le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ». On est encore au cœur de toute une réflexion extrêmement chrétienne, derrière une formule, après tout, assez anodine. Et ça donne, c'est vrai, ce livre, où le rapport entre ces 160 pages, 170 pages, et la profusion des thèmes et la profondeur d'un ensemble de sa réflexion est tout à fait étonnant. Et on en ressort un peu groggy par ce livre, bien au-delà, je dirais, de ce qu'on avait pu penser au départ, et notamment la réflexion un peu canaille, de se dire, tiens, est-ce que le Christ peut être représenté de manière aussi réaliste. Ça fait sourire au début. En réalité, c'est très profond, parce que c'est vraiment la réflexion théologique par excellence, vrai homme, vrai Dieu, le jansénisme ayant mis là-dessus un voile pudique, mais le vrai croyant, le vrai théologien, se reposant vraiment la question de cette question vrai ou moins vrai Dieu, ça donne un livre assez étonnant.
Philippe Chevillier, parce que moi je suis sensible évidemment aussi à la façon dont Éric de Lucas, dont on sait que non seulement il lit la Bible, mais qu'il a appris l'hébreu le plus ancien pour pouvoir revenir au texte, enfin qui attache évidemment une importance considérable à chacun des mots qu'il utilise. On sait aussi qu'il parle quand même merveilleusement français, pour l'entendre souvent sur cette antenne. J'imagine que donc il regarde de près les traductions, même si Daniel Valin n'a plus de preuves à faire dans ce domaine. Il y a une langue extrêmement précise, évidemment, qui va avec la concision du texte.
Alors, il y a une langue précise et une élégance, une grâce presque aristocratique qui fait que, moi, ce qui me frappe, c'est que sur justement des anecdotes ou des idées comme celle du passeur qui au fond quand même pensait très politique, hein, il a envie de dire quelque chose sur les migrants, il le fait avec beaucoup d'élégance et sans que ça soit trop appuyé. Sur l'aspect, c'est amusant aussi comme il convoque les trois grandes religions monothéistes, parce qu'il y a un rabbin, un ouvrier algérien,
oui, et puis les prêtres qui a suivi l'école coranique,
voilà, hein, et qui sont tous aussi. Alors c'est une image laïque très apaisé des religions, parce que dans les trois camps, on est quand même très, très ouvert et à la discussion, au dialogue. On peut même se dire, les prêtres n'ont pas l'air tellement gênés par cette histoire d'érection, donc on est prêt à aller à exposer le. Donc il y a peut-être cet aspect un peu trop joli autour, mais je trouve que grâce à cela, et par cette élégance de style, il arrive à faire passer beaucoup de choses. Il y a une précision, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, je trouve que ce qui paraît sur le plan stylistique très simple ou des phrases très courtes, en fait, amène des abîmes de réflexion. C'est-à-dire que c'est pas toujours très clair ce qu'il veut dire. Ça procède aussi par énigme. Et c'est à la fois, on peut le reprocher parce qu'on peut se dire il va pas jusqu'au bout. Mais en même temps, moi, j'aime bien que les livres restent un peu ouverts et qu'on soit pas dans un qu'il y ait pas des vérités assénées à chaque phrase.
On peut pas être exégèse et absolument livrer des réponses à chaque phrase. Il est contaminé par ses propres lectures, Éric Deloux.
Et le reproche, évidemment, le revers de la médaille qu'on peut faire, c'est ce que disait Étienne, c'est le côté très, très éparpillé du livre. Mais encore une fois, on a l'impression qu'il y a sa plume qui continue toujours à rassembler les morceaux et que, effectivement, les deux histoires de la montagne et de la mer arrivent à converger vers cette réflexion théologique au-delà. Humaniste sur le monde d'aujourd'hui.
Ouais, sur la forme, Étienne de Montetti.
Oui, en effet, il y a tous ces personnages qui pourraient passer pour un peu convenus parce que effectivement, ils donnent une image assez idéale, assez sympathique de toutes les questions théologiques abordées par le livre et à travers les grandes religions. Mais comme il a choisi le mode de la parabole, je trouve ça assez léger finalement. De même, la femme, il me semble qu'elle est appelée comme ça. Le rabbin, l'ouvrier musulman.
Donc le sculpteur.
Le sculpteur. On sait qu'on est dans quelque chose qui est quand même de l'ordre du symbolique. Et ça permet d'accepter ce registre. La montagne, hein, quand on lit la Bible, la montagne, évidemment, c'est le lieu de la discussion avec Dieu. La montée, la descente, tout ça est accepté. Une fois qu'on a accepté le procédé, j'ai vu des articles un peu sévères sur Ed de Lucas, je crois qu'il faut accepter. Ah oui. Il faut accepter d'être... d'être porté par lui et puis de se laisser sinon enseigner, enfin du moins questionner par son style. En tout cas, c'est un livre que je trouve très singulier dans la position contemporaine.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche donc alors dans ces articles que je n'ai heureusement pas lus?
Alors je ne me souviens plus très bien de l'auteur ni du...
Oui, non, mais il ne s'agit pas de... Mais c'est plutôt la teneur même
mais justement,
de la critique.
Un peu de personnages qui jouaient un rôle, justement, le rabbin,
des archétypes, des figures.
Voilà, mais ce n'est pas tellement ça.
C'est pas le problème.
C'est plutôt la parabole, me semble-t-il, où chaque personnage... non, ne joue pas un rôle, mais...
Non, parce qu'ils existent bel et bien, tous, enfin, et c'est pas parce qu'ils sont sont des figures, mais très incarnées. Enfin,
exactement, et puis...
Le prêtre a une vraie... Enfin, il y a des vrais échanges qui constituent un personnage.
Et puis, ils sont pas caricaturaux, ils ont une approche assez originale du sujet, et donc, il faut accepter ce genre littéraire. Si on l'accepte pas, qu'on veut un grand roman naturaliste, par exemple, faut passer son chemin, aller lire autre chose, mais sinon, on passe un moment... assez subjugant en compagnie d'Éric Deloucas.
Philippe Jeuvier, un dernier mot.
Oui, quand tout d'un coup il décrit la nature, bon, ça, évidemment ça sert son projet théologique, humaniste, métaphysique, tout ce qu'on veut, mais quand il décrit la nature, ou plutôt quand il décrit par exemple la ville de Naples, quand on revient à Naples, on sent cette vie partout. Il y a aussi une faculté en quelques mots à décrire un monde vivant. Le livre est vivant, c'est pas.
Ah oui, complètement.
C'est pas cérébral, c'est vivant.
C'est pour ça que le mot daté, pardon, un dernier mot qu'on a prononcé, est peut-être moins précis que panthéiste d'une certaine manière, parce que dans sa description de la nature,
chaque pierre et chaque animal.
Exactement.
Et il y a aussi une réflexion, alors sur l'art, on en a un petit peu parlé, mais puisque quand on voit ce sculpteur parler des objets qu'il ramasse, on a l'impression que c'est un artiste qui va faire des installations, mais lui surtout, il refuse toujours cette idée d'art, et en même temps, l'art, c'est aussi ce qui permet d'élever l'esprit, qui rapproche du Dieu dans lequel il ne croit pas vraiment, mais qui, voilà, donc il rapproche l'art du côté divin, c'est intéressant aussi, il le fait très bien.
Et en même temps, le curé lui dit qu'il a fait un travail artistique en choisissant telle qualité de marbre qui, par ses nuances, détourne le regard peut-être de cette érection qui aurait pu être sinon un peu le centre de tous les regards. Donc il dit, mais tu as fait un choix artistique. Enfin bon, il y a toutes ces réflexions sur le regard. Bon, vous avez compris que ce livre est très riche et que nous vous le recommandons. Découvrez donc cette nature exposée, la nature exposée, le nouveau livre d'Éric Deloucas, publié chez Gallimard, dans une traduction de Daniel Valin.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, Yevgena Yaroslavskaya Marcon et Michel Houellebecq, avant cela Lucille Comeau dans Le Petit Salon.
Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, un grand salon, pas très ouvert.
Oui, demain commence la grand-messe de l'édition française. J'ai nommé le Salon du Livre de Paris, ou faut-il dire désormais Livre Paris, puisque l'événement a changé de nom il y a quelques années. Or, cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, il va ouvrir dans un climat particulièrement tendu. Le premier à déclencher les hostilités a sans doute été Maxime Chattam, qui, il y a un petit mois, a publié sur Twitter son intention de boycotter l'événement pour contester le prix d'entrée qu'il trouve excessif. Le tweet en question a fait un peu de bruit. Maxime Chattam est un auteur à succès, une des grosses signatures d'Albin Michel. Et sa déclaration a été largement reprise sur les réseaux sociaux, révélant un mécontentement significatif de la part du public, qui se plaint à la fois donc des tarifs d'entrée, mais aussi des conditions de circulation sur place, de la désorganisation des lieux, mais aussi de cette mesure imposée depuis quelques années par le salon, où j'ignorais l'existence, qui interdit aux visiteurs d'apporter plus d'un ou deux exemplaires de leurs propres ouvrages, soi-disant pour empêcher, je cite, les trafic de dédicaces. Alors Bernard Pivot, le pape du livre en France, a lui-même réagi à cette polémique sur une antenne concurrente en déclarant il y a quelques jours qu'il trouvait scandaleux qu'on doive payer pour accéder à des livres en France. Pour autant, il sera bien présent, lui, au salon cette année. Alors, Le Parisien Magazine publiait le week-end dernier un article intéressant intitulé « Le salon du livre n'est plus un best-seller ». Il analyse les raisons pour lesquelles l'événement est de moins en moins populaire en donnant plusieurs explications. Il y a donc cette question de prix pour le public, malgré les initiatives des organisateurs, notamment la gratuité pour les moins de 18 ans. Une entrée le week-end au tarif normal coûte quand même 12 euros, mais il y a aussi le coût des stands pour les exposants, qui représentent un budget conséquent pour les éditeurs. Des éditeurs qui sont de plus en plus nombreux depuis 2010 à renoncer à participer au Salon du Livre. Cette année, Fayard et Stock, par exemple, ont décidé de faire l'impasse sur l'événement parisien. Des éditeurs qui affirment préférer envoyer leurs auteurs en province, dans les librairies ou dans les petits salons, qui eux sont souvent gratuits, plus humains et plus festifs. Dans Le Figaro, mardi dernier, Mohamed Aïssaoui cite par exemple la foire du livre de Brive, en grande partie gratuite, où contrairement à la porte de Versailles, le public est au rendez-vous et le chiffre d'affaires des exposants est en nette augmentation ces dernières années. Il cite aussi à l'étranger la foire du livre de Bruxelles, qui est passée totalement à la gratuité en 2016 et qui a battu cette année-là son record historique de fréquentation. Alors dans Le Parisien, Vincent Monadet, directeur du Centre National du Livre, défend le modèle de la foire parisienne, mais il affirme elle doit redevenir une vraie fête populaire. Selon vous, que faudrait-il faire pour y parvenir?
Ah, on va vous mettre au conseil d'administration de Livre Paris, messieurs, pour avoir vos suggestions. Vous avez réfléchi à tous les changements qu'il fallait faire, Étienne de Montetti?
Non, je n'ai pas réfléchi. Je vois simplement depuis des années, effectivement, une désaffection. Les éditeurs qui refluent parce qu'ils trouvent que ça leur coûte très très cher pour un gain modeste. Il est vrai que pour y être allé comme visiteur et aussi comme auteur, que c'est un salon du livre et que derrière le mot livre, il se cache quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ça va du livre pratique au livre d'enfant, passant par le témoignage d'une starlette et puis parfois aussi le roman d'un romancier. Et tout ça cohabite et ça donne quelque chose d'un peu particulier. Mais tu arrives à voir des écrivains reconnus, chevronnés et très intéressants, délaissés et d'apercevoir un peu plus loin une émeute. Parce que on était venu voir une vedette de cinéma, donc c'est toute cette confusion, je pense, qui installe.
De cinéma au mieux, là,
au mieux, oui. Parfois de la télé-réalité, effectivement, ouais. Mais c'est ce malaise un peu, cette difficulté à trouver une identité à ce salon, je pense, qui est en cause. Le coup, c'est vrai, pose des questions. Il y a une proposition qui fait son chemin, c'est le billet payant, mais qui serait un avoir pour l'achat du premier livre.
Ah oui.
Et donc, qui ne sanctionnerait d'une certaine manière que le visiteur, celui qui est venu effectivement en badaud pour voir les vedettes, mais celui qui achèterait un livre verrait automatiquement son ticket remboursé, ce qui est une manière d'encourager les gens à acheter des livres, et ça peut être une solution. Je pense quand même que c'est un salon qui doit véritablement réfléchir sur son identité. Et pour expliquer un tout petit peu l'histoire des dédicaces, ça concerne essentiellement les bandes dessinées.
Ouais.
Où les gens viennent effectivement avec des monceaux d'albums, demandent à des braves dessinateurs bienveillants et amicaux un certain nombre de dessins qui parfois se retrouvent le soir même sur eBay. Et dans le monde de la bande dessinée, je sais que c'est véritablement un problème. Ça crée une distance, un fossé entre les auteurs et le public, et ça c'est très très mauvais, et tout le monde s'interroge sur la manière de régler au mieux ce problème d'une spéculation qui n'est pas du tout dans l'esprit d'un salon quel qu'il soit.
Philippe Chevillier, vous êtes nommé directeur de Livre Paris, donc pour 2018, hein, là, on va laisser cette édition. Qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Alors, j'ai pas fait mes 100 mesures, j'ai pas eu le temps. Mais non, la première chose à laquelle je pensais, c'est un peu délicat à dire, mais je trouve que le parc des expositions de Paris est pas un endroit tout à fait de rêve pour. Je pense qu'il faudra un décorum pour un salon
des
de livre,
belles années soit, du Grand Palais. Mais voilà. Se dérouler, mais il y a bien longtemps maintenant.
Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, mais retrouver. Alors il y a
pas. Fait moins de mètres carrés à louer. C'est ça le problème.
Exactement. Oui. Alors peut-être
moins de stands.
Peut-être qu'il faut resserrer justement un petit peu les choses ou trouver. Il y a peut-être d'autres espaces qui font plus rêver. Mais là, franchement, l'histoire. J'avais pas vu cette proposition, mais à chaque fois que j'avais pensé, c'est les 12 euros comme droit à une conso.
Ben oui, oui.
Comme dans un établissement. Je pense que ça c'est une bonne idée parce que arriver dans un salon du livre où on vous fait payer 12 euros, c'est vrai que ça paraît un peu extravagant. Et puis alors je pense après qu'il y a un aménagement interne, quand vous dites organiser, je pense que c'est organiser les lieux, faire en sorte que on ait des thématiques qui soient sans doute plus marquées, qu'on puisse retrouver la partie romanesque, la partie littérature mieux mise en valeur, je sais pas comment, mais c'est aussi une question de déco, design, ça coûte pas forcément si cher que ça de faire d'une déco qui donc là-dessus apparemment c'est ce que dit Vincent Monadé, qu'il faut réenchanter oui, il faut réenchanter, mais donc ça sera pour l'année prochaine si tout va bien, parce que là c'est un peu trop tard.
C'est vrai que le coût des stands est quand même un vrai problème, hein, dans l'article. Je crois que je sais plus si c'est Stock ou quelqu'un d'autre, une autre maison qui disait 50 000 euros. En gros, le stand, c'est sûr qu'il vaut mieux prendre cet argent et envoyer des écrivains de la maison dans différents lieux en France pour des rencontres autrement productives en termes de vente aussi, parce que c'est pas parce qu'on a présent sur un stand. Est-ce que d'ailleurs vos journaux respectifs, messieurs, le Figaro, les Échos, ont des stands au Salon du Livre?
Pour la première année, non.
Et ben voilà.
Parce que d'autres problèmes qu'on va pas expliquer ici se sont posés, et ça nous conforte dans l'idée qu'il y a véritablement des problèmes de l'identité de ce salon, à quoi il sert, pour qui, pourquoi. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'invité annuel, qui était à la fois une très bonne idée dans l'esprit de faire découvrir des littératures d'autres pays, mais la manière de procéder en s'adressant au pays en question a des effets pervers.
Des écrivains officiels
et des écrivains interdits. Il y a même eu,
selon les années,
certaines années, des véritables problèmes politiques. Et donc tout ça crée une situation un petit peu frelatée, un peu embarrassante, avec laquelle personne n'était véritablement à l'aise. Et là aussi, cette très belle vitrine que pourrait être un pays invité dont on découvrait la littérature, cette vitrine-là est un peu opaque.
C'était le cas auparavant, c'est vrai que ça s'est dégradé au fil des années. Il y a un stand des Échos, Philippe Chevillier?
Je ne pense pas que je sache.
Non, vous le sauriez.
Je pense que je le saurais, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un stand économique, non, je ne crois pas.
Bon, Radio France sera toujours présent, et France Culture, évidemment. Depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche ou lundi, de façon très importante, comme chaque année pour l'instant. Philippe, vous voulez ajouter?
Je voulais juste rajouter que je pensais, en revanche, important qu'on garde l'idée d'un grand salon du livre à Paris, parce que toutes les initiatives qui sont faites ailleurs, justement par contraste, c'est aussi par contraste qu'elles marchent bien.
On parlait de Brive, mais le Bron, qui est une manifestation extrêmement populaire et qui amène un monde, qui attire un monde absolument incroyable. Des passionnés, ça attire des milliers de personnes le temps d'un grand week-end. Et les exemples sont nombreux. Je pense à Bron parce que c'était il y a 10 jours à peine. Il y a vraiment une envie des lecteurs et des lectrices et des concitoyennes et des concitoyens pour des salons où ils vont rencontrer, écouter les auteurs. Enfin, Lucille, vous l'avez
dit aussi. Ce sont souvent des salons un peu spécialisés. Par exemple, Quai du Polar à Lyon marche très bien aussi, parce qu'il y a une spécialité. Et c'est vrai que ça paraît logique de spécialiser, comme disait Étienne.
Même non spécialisé comme Brive, c'est des vedettes. Mais Bron, où il y a tout autant de vedettes.
Il y a un esprit du moins. Et donc, du coup, les gens se retrouvent dans une forme d'esprit propre à un lieu, alors que là, c'est vrai que c'est tellement grand.
C'est une foire, plutôt qu'autre chose.
Oui, mais une foire, c'est pas forcément justement faire une foire du livre, c'est intéressant. Le mot foire associé au livre, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il faudrait trouver, mais il faudrait trouver un état d'esprit intéressant, et c'est pas le cas pour le moment.
Bon, il paraîtrait impossible qu'il n'y ait pas un événement de cette nature à Paris, donc il faut le réformer, mais...
Ouais, on n'est pas à l'abri de le perdre. C'était à Nice qui était autrefois ce salon du livre avant qu'il emménage à Paris. Là, je vous parle des années 70. Vous n'étiez pas né. Moi, si. écoutez, nous verrons ce qu'il en sera pour cette édition. Nous aurons les communiqués officiels de fréquentation. On verra bien. Déjà, c'est un indicateur quand même qui importe aussi pour ce type de manifestation. Le deuxième livre à notre sommaire, il s'intitule « Révolté ». Le titre n'est pas de l'auteur, on va l'expliquer. C'est Yevgena Yaroslavskaya-Marcon, un livre publié au Seuil dans une traduction de Valérie Kistoff. Alors, c'est une publication qui nous arrive après une autre publication, celle du météorologue d'Olivier Rollin, dont nous avions parlé ici, et qui signe la préface de ce livre. Ce livre qui est l'autobiographie donc de Yevgena Marcon, femme du poète Alexandre Yaroslavski, donc était elle une fille de la bourgeoisie intellectuelle juive de Petrograd, anarchiste, donc voleuse. On comprendra le lien dans un instant quand nous en parlerons. Et puis elle a été déportée aux sinistres îles Solovki, condamnée à mort, exécutée à l'âge de 29 ans. Et alors Olivier Rollin avait découvert une photo de Yevgena au Solovki alors qu'il travaillait à son roman. Cette photo, il y a souvent pensé, et puis il a appris qu'avait été découvert dans les archives du KGB ce texte, aujourd'hui publié en français, il a déjà été en langue anglaise, un texte que cette jeune femme a écrit à toute allure, en captivité, sachant qu'elle allait très certainement être exécutée. Il y a beaucoup d'annexes aussi, hein, après ce texte, une postface signée de l'historienne Irina Fléguet, qui est la directrice du Centre de Recherche et d'Information Mémoriale de Saint-Pétersbourg, qui nous renseigne sur la vie de Yevgena Yaroslavskaya-Marcon et sur les conditions dans lesquelles elle rédigea ce texte. Introduction, c'est vrai, mais je pense qu'elle est nécessaire quand on voit surgir un texte qui nous parvient contre toute attente, hein, finalement. Et puis cette photo qui, évidemment, que les éditions du Seuil reproduisent sur la jaquette de ce livre. Peut-être quand même lire le tout début du texte de Yevgena Yaroslavskaya-Marcon, qui écrit « Avertissement ». Deux points. Ne soyez ni étonné ni troublé par ma sincérité. En fait, je suis convaincu que la sincérité est toujours avantageuse pour l'homme, car si noirs que soient ses actes et ses pensées, ils le sont beaucoup moins que ce qu'en pense son entourage. Dans mon enfance, déjà, je me disais toujours comme ce serait bien que nous soyons, moi et tous les autres êtres humains, transparents comme en verre et qu'on puisse voir entièrement, comme à travers une vitrine, toutes nos pensées, tous nos désirs, tous les véritables mobiles de nos actes. Chacun verrait alors l'autre comme celui-ci s'imagine être. Or, nous sommes bien loin, en général, de penser du mal de nous-mêmes. Autre avertissement, je n'écris pas cette autobiographie pour vous, messieurs des services de la police. Si vous étiez les seuls à en avoir besoin, je n'aurais jamais commencé à l'écrire. J'ai simplement envie moi-même de fixer ma vie sur le papier, mais du papier, je ne peux m'en procurer nulle part qu'au bureau d'information et de sécurité du camp. Le papier a disparu de notre union, ce n'est pas pour rien que la production renaît et l'économie s'organise. Citation. J'écris pour moi, écrire pour falsifier la réalité, ça n'a aucun intérêt, d'autant plus que je n'ai rien à perdre, voilà pourquoi je suis sincère. C'est tout le début de ce texte, alors le titre « Révolté », il est d'Olivier Rollin, elle l'avait inscrit en haut de la première page, « Autobiographie ». 30 pages retrouvées donc dans ces archives. On nous explique pourquoi d'un texte effectivement qui semble jaillir de cette plume pour le moins alerte, Étienne de Montetti, femme qui
pour le moins alerte,
toute jeune et qui sait que sa vie est déjà finie.
Oui, et puis une sorte de météore. Hein, le livre de Rollin, c'est le météorologue. Là, on est plutôt du côté de la météorite avec un livre qui est tout à fait frappant, je trouve, parce qu'il n'a aucune intention littéraire. C'est un livre qui a été écrit comme ça. Elle dit « J'écris pour moi », donc elle n'a peut-être jamais écrit. Elle a été journaliste un peu avant, mais enfin, pas d'intention littéraire. Elle écrit « Le cri du cœur ». c'est le cas de le dire, parce qu'elle sent qu'elle est au bout de sa vie. Elle est en exil, elle est prisonnière, elle est aux îles Solovki, elle est déportée en tant que telle. Et on va découvrir la vie tout à fait inouïe de cette jeune fille de la bourgeoisie intellectuelle juive de Moscou. Son père est enseignant, je crois, si ma mémoire est bonne. Et qui va être... par justement cette extraordinaire vitalité, cette capacité d'indignation qu'elle a, elle va être très très vite prise par les mouvements sociaux et politiques qu'elle observe autour d'elle. Elle a 14 ans en 1917, donc elle est le témoin déjà engagé. Comme,
bah oui, elle sèche l'école
comme lycéenne,
pour aller faire la
révolution. Et elle, c'est quelqu'un qui donne tout. Elle m'a fait penser à Simone Veil, la grande philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contentait pas de penser à l'action, elle voulait agir. Simone Veil en est mort d'une santé trop fragile pour tout ce qu'elle s'était infligé pour partager le malheur du monde qu'elle observait et qu'elle analysait. Et là, je l'appelle Evgenia, je ne donne pas son nom de famille qui est un peu compliqué à prononcer, mais Evgenia, elle donne tout, elle va donner tout à son mari, ce poète, effectivement, un peu utopiste, un peu anarchiste, avec lequel elle va voyager en Europe. Elle est en France, par exemple, à un moment donné. Et c'est très intéressant parce que donc cette jeune femme révoltée, avec une bienveillance pour les révolutionnaires en herbe ou quasiment au moment où la révolution s'installe en Russie, et elle observe aussi en France des injustices, de la pauvreté. Elle découvre aussi des œuvres sociales. Elle a une espèce d'aveu. Elle voit une œuvre sociale qui a été établie par la famille Rothschild, et elle rend hommage à la famille Rothschild, qui, en dépit d'un capitalisme qu'elle doit réprouver, a monté une œuvre qui prend quand même en charge les pauvres, les sans-abri, etc., ce qui n'est pas le cas en Russie. Et elle a cette sincérité.
Oui, elle dit qu'elle respecte bien plus les Rothschild que ces soviets.
Voilà, voilà.
Au pays.
Exactement. Parce que les bolcheviks la déçoivent. Elle est tellement idéaliste, elle est tellement sincère, elle est tellement entière, qu'assez vite, ceux qui prennent le pouvoir pour accomplir la révolution, vont la décevoir. Et elle va trouver, au fond, la révolution chimiquement pure, dans un univers qu'elle a observé de manière un peu intellectuelle au départ et journalistique ensuite. C'est le monde des voleurs.
De la pègre.
La pègre.
C'est le terme qui est choisi.
Les bas-fonds.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et elle va, non pas avoir un regard d'intellectuel sur cet univers qui n'est pas le sien, mais elle va véritablement plonger pour partager leur vie, leur activité. Les bas-fonds, je pensais à Jack London, le peuple des abîmes, il a une attitude assez journalistique. Il rentre se doucher quand même à l'hôtel, changer de veste parce que...
Alors qu'elle dort dans la rue.
Elle apprend à devenir pickpocket.
À couper les goussets.
Elle détrousse les voyageurs de leurs valises à la gare de Moscou. Et donc, elles partagent véritablement leur existence. Elles semblent y trouver une sorte de jouissance, pas intellectuelle, mais une sorte de plénitude dans sa vie. Elle a enfin trouvé un milieu dans lequel il y aurait une sorte de pureté des intentions, une pureté de la révolte. Bon, très bien. Elle va être arrêtée, relâchée. Elle va à nouveau retourner, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer tout simplement parce qu'on a été arrêté par la police, au point qu'elle sera déportée. Elle ne va jamais renoncer. Elle sera toujours une indignée. Elle va provoquer les autorités au point... Elle le raconte à la fin de son manuscrit, au point elle sera fusillée, finalement. Et cette sincérité indignée qui traverse le livre est extrêmement touchante et donne à ce livre une sorte d'éclat qui est vraiment sidérant, parce qu'il est tellement involontaire, d'une certaine manière, encore une fois, aucune intention littéraire. Et donc, on est saisi et assez attendri par cette femme qui, par exemple, agit et fait tout ce que je viens de raconter en ayant été amputée des pieds.
Oui, parce qu'accessoirement, elle est tombée...
Parce qu'elle est tombée un jour sur une voie.
Et en train de lui passer dessus.
Mais cette amputation épouvantable n'est rien à côté de la passion qu'elle a pour son mari, parce que ce qui lui arrivera à la fin, c'est parce que son mari a lui-même été exécuté par les bolcheviks. Tous ces malheurs et toute cette vie quand même qui est une cohorte de difficultés et de drames, tout ça n'est rien si son idéal, son amour, son grand cœur peuvent donner libre cours.
Philippe Chevillier, sur cette révoltée.
Moi, j'ai été frappé d'emblée par cette urgence du récit qui n'est pas non plus, qui est pas du tout un récit pathétique. C'est-à-dire que elle va, elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps, mais c'est pas du tout larmoyant ni rien. On a l'impression qu'elle a encore cette énergie vitale et qu'après tout, si on lui donne une deuxième vie, elle a encore plein de révolutions à faire un petit peu partout. La fin d'ailleurs est assez, avant d'arriver en prison, dans la prison, dans les îles, où en fait, pour arriver à faire vivre elle-même ses camarades, et elle dit la bonne aventure. Enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est une vie révolutionnaire, une vie de révolutionnaire, une vie romanesque. Je trouve que c'est une formidable héroïne et qui nous, à la fois qui est intéressante parce qu'elle nous montre parfois, on est dans le romantisme un peu révolutionnaire de se dire la révolution, les bolcheviques au début c'était beaucoup mieux qu'après. En fait, on se rend compte que le verre est dans le fruit très vite et que la GPU, enfin que les services secrets, etc. sont déjà là à traquer un petit peu tout le monde. Et là, on a la vision de révolutionnaire vraiment qui va jusqu'au bout avec cette pensée qu'elle développe de l'idée qu'au fond, les seuls vrais révolutionnaires seraient les délinquants. Et le lumpen prolétariat, c'est ce qu'on retrouve un peu après dans les années 80 avec les autonomes, la bande à Baader, cette idée que on ferait la révolution à partir des gens qui sont en prison, etc. Et il s'avère, je crois que c'est dans la préface qu'on nous le dit, que en fait c'était pas du tout le cas, que les gens dans les prisons n'étaient pas du tout révolutionnaires. Mais peu importe, elle est dans cet idéalisme. Et on a ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est cette façon de décrire très simplement. Alors il y a quand même cette expérience journalistique qui doit lui servir, parce que la façon dont elle décrit justement ces bas-fonds, ou même que ça soit à Paris ou ailleurs, cette façon aussi qu'elle a de rester dans sa ligne révolutionnaire et sans vraiment donner de leçons, mais de montrer, d'arriver à quand même à convertir d'une certaine façon les gens à ses idées, de se retrouver pratiquement pas agressée alors qu'elle dort un peu n'importe où, elle arrive toujours à s'arranger. C'est vraiment une héroïne presque de théâtre, quoi. C'est assez incroyable. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai été au départ intrigué et puis après on est emporté par le flot. Et on a tout d'un coup cette plongée dans un destin d'anarchiste révolutionnaire qui est passionnant. Voilà. Donc,
Alors passionnant et complété, parce que vous le disiez, elle n'a jamais l'affaire, Yevgenia Yaroslavskaya. Et donc on a notamment dans les annexes l'interrogatoire du 12 janvier 1931 où elle assène sévérité. Alors mais comme le système soviétique est très bien fait, tout ça est pris en note, classé, archivé, donc tout ça est conservé, l'ordonnance de renvoi et quelque chose alors quand même d'assez terrible. Une fois qu'on a lu ce texte, c'est l'extrait du récit d'un gardien de ces îles Sovloki qui raconte les derniers instants de Yevgenia Yaroslavskaya dont il est témoin, et on voit à quel point jusqu'au bout. Elle crache au visage du chef du camp, quoi, parce que en fait, comme il l'a fait assassiner son mari, le poète, elle lui a balancé un caillou sur la tête quand il passait par là. Donc du coup, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est pour ça que finalement, elle est condamnée elle aussi à être exécutée. Mais voilà, mais jusqu'à la fin, elle lui hurle à la figure et elle lui crache à la figure. Il y a quelques pages hein, comme ça du récit d'un gardien. Là encore, ce sont les archives soviétiques qui sont assez incroyables. La bureaucratie a du bon dans le fait qu'on garde tout, qu'on ne perd jamais rien. Et effectivement, cette postface, elle a été écrite par celle qui a découvert ce texte, donc découverte en 1996. Ce texte, et c'est Irina Fliguet, je le disais tout à l'heure, qui signe la postface, extrêmement lumineuse aussi. On a un vrai livre d'histoire. Si bien, on aurait pu avoir ce texte édité très simplement. Là, je trouve qu'au Seuil, c'est la collection Fiction et Compagnie, ils ont fait un véritable travail pour nous donner vraiment la matière qui va autour. Étienne de Montetti.
Oui, et puis on voit se dessiner finalement la figure d'Antigone, c'est-à-dire que la malheureuse qui n'a aucune arme à part son sang-froid, enfin son cran, comme on dit, de faire face à ses bourreaux, à ses gardes, elle a une sorte de supériorité sur eux. Mmh. Eux, ils appliquent un système lourd qui apparemment est tout-puissant et qui va la broyer. Et elle a la petite flamme, voilà, de toutes ces héroïnes de l'histoire ou de la mythologie qui sont finalement supérieures à leurs bourreaux parce qu'ils sont animés d'une sorte de raison supérieure à un système qui est celui de la liberté humaine. Et ça, c'est assez touchant. Encore une fois, parce que c'est pas volontaire. Mmh. Ça aurait été une fiction. On aurait peut-être trouvé ça un tout petit peu téléphoné, un tout petit peu évident. Mais là, venant de quelqu'un qui est simplement raconté sa vie, on est assez épaté.
Philippe Chevillet.
Oui, et puis il y a aussi ce qui est intéressant chez elle, c'est quand même une... qui prêche quand même une forme de violence dans la Révolution. Elle a aussi un élément de compassion. C'est-à-dire que, par exemple, elle pardonne au bourreau. Je crois qu'il y a un moment où elle dit si un de mes ennemis se noyait, j'irais le sauver. En revanche, je n'hésiterais pas à lui tirer dessus si j'étais dans un contexte révolutionnaire. Mais elle a un humanisme comme ça, un peu au premier degré, un intérêt pour les autres. On sent que c'est pas seulement une révolution égoïste, une façon de s'affirmer elle-même. C'est plus profond que ça. C'est vraiment vouloir changer les autres, le monde. Donc c'est une vraie révolutionnaire.
Révoltée. Et eux, bien sûr, Yevgenia Yaroslavskaya Markon, traduit du russe par Valérie Kislov. Ce livre est publié au Seuil avec donc un avant-propos de Olivier Rollin et une post-face d'Irina Fliguet.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième livre à l'affiche de cette dispute, c'est toujours un ouvrage disponible en édition de poche aujourd'hui en présence de Schopenhauer de Michel Houellebecq dans la collection Carnet aux éditions de Lerne. Si l'on s'intéresse un peu à Michel Houellebecq, on sait son lien, ou sa vénération même pour le philosophe Arthur Schopenhauer, dans la mesure où, évidemment, il est très présent. Et selon Michel Houellebecq, Schopenhauer, c'est le seul à même de véritablement comprendre le monde dans lequel nous vivons, un monde... dans son déclin, et un monde qui va évidemment à sa perte, dont la disparition est programmée. Dans la préface de cette édition, Agathe Novak, le chevalier qui avait dirigé le cahier de Lerne, Michel Houellebecq, dont nous parlions dans un petit salon précédemment, nous explique que Houellebecq avait entrepris la traduction et le commentaire de deux des livres les plus importants du philosophe, Le Monde comme volonté et représentation, et puis Aphorisme sur la sagesse de la vie. Si Houellebecq n'a pas mené à son terme cette mission, cette entreprise, il a quand même traduit et travaillé sur une trentaine d'extraits, donc qui sont de ces textes qui sont réunis ici dans ce cahier de Lerne, qui éclaire évidemment assez bien l'œuvre et les préoccupations de Michel Houellebecq. Étienne de Montetti.
En effet, c'est un très court texte.
Dense,
avec une succession d'extraits et de commentaires de Houellebecq. C'est vraiment des explications de texte. C'est un travail en cours. Et c'est assez intéressant. Ça m'a fait penser à tout le développement que Houellebecq fait dans Soumission à propos d'Huysmans. Où il publie tel quel. Dans le roman, c'est à peine plus travaillé. Sa lecture d'un auteur... et sa réflexion sur cet auteur, même si c'est un peu un tunnel dans le courant du récit, et dans les romans de Houellebecq, il y a toujours ça. Il nous impose tout d'un coup des thèmes, des sujets scientifiques ou économiques, si c'est le monde du voyage ou de l'hôtellerie, peut-être dans Plateforme, je ne me souviens plus très bien. Et pour Huysmans, c'était véritablement manifeste dans Soumission. Et donc, ça ressemble à Houellebecq, cet art de Houellebecquiser, au fond, de prendre possession d'un texte. C'est assez impressionnant. Alors, effectivement, jusqu'à maintenant, l'admiration de Houellebecq était saupoudrée. Il y avait un poème que j'ai retrouvé dans la préface, là. Je veux penser à toi, Arthur Schopenhauer. Bon, c'est un Alexandre qui dit pas grand chose, mais qui est assez joli. Et puis, au fil de ses livres, effectivement, des allusions à ce philosophe. On y retrouve effectivement ce que Houellebecq a choisi, c'est-à-dire la réflexion sur ce que Schopenhauer appelle le vouloir, et puis des thèmes comme la souffrance, la jouissance, l'ennui, qui sont aussi des mots que Schopenhauer utilise, traite, et que Houellebecq reprend à son compte. Et il y a chez Houellebecq, dans ce texte qui est ancien, qui correspond à un peu un autre Houellebecq que celui d'aujourd'hui.
C'est en 2005 qu'il a commencé, il l'a achevé il y a peu de temps.
Mais qui correspond véritablement à un moment donné où Schopenhauer était un peu un horizon indépassable, et les Houellebecquiens expliquent qu'après il y a la période Auguste Comte qui invalide
un peu goût à la vie.
Et voilà, et qui invalide pour une certaine manière tout le pessimisme de Schopenhauer, parce que Houellebecq notamment découvre que le monde tourne au spectacle, à la dérision, et c'est tout à fait une approche qui n'est pas celle de Schopenhauer, qui semble le tenter maintenant. Il en reste pas moins que de l'étude de Schopenhauer, ça nous permet de voir les premiers romans de Houellebecq, notamment ce grand pessimisme sur l'homme, cette manière d'essayer d'harmoniser sa vie tant bien que mal. C'est donc une sorte de petit précis qui permet d'explorer, de mieux connaître Houellebecq à l'évidence.
Philippe Chevillé.
Alors moi, j'y vois une belle entrée en matière croisée, à la fois Schopenhauer et Michel Houellebecq. C'est un petit livre, mais qui est dense quand même, puisque... Alors la philosophie de Schopenhauer n'est pas très compliquée, c'est-à-dire dans l'écriture, c'est un des philosophes qui faisait attention à être intelligible, et on retrouve ce caractère intelligible. Et en plus, comme c'est commenté par Houellebecq, avec la préface, c'est vraiment, je pense que c'est intéressant. Et avec en sus donc des réflexions personnelles de Houellebecq sur la réalité du monde d'aujourd'hui, la pornographie, l'art urbain, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant dans un deuxième temps, c'est sur l'image de Houellebecq d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu à l'avoir... justement, il est entré un peu dans ce jeu de la pipelisation de façon consciente ou inconsciente, par provocation. Et donc, c'est une image presque un peu à la Gainsbourg de la littérature, alors qu'en fait, on retrouve à travers ce petit livre toutes les références, tout son désespoir face à justement à ce vouloir du monde aveugle, face à cette souffrance qu'on ne peut pratiquement pas contrôlé, sauf peut-être justement en se retrouvant avec le baume de l'art, de l'esprit, de la philosophie, qui ne peut plus vraiment vivre aujourd'hui, parce que justement le monde n'est pas ouvert à ça, on est plutôt dans un monde spectacle, etc. Donc on retrouve tout d'un coup, je trouve, un Houellebecq beaucoup plus touchant, mais avec ce côté compassion qu'il peut y avoir dans ces livres qu'on oublie parfois. Je me souviens que quand on avait vu Les Particules élémentaires mis en scène par Julien Gosselin, certains amateurs de Houellebecq trouvaient qu'il y avait trop de compassion presque dans la pièce de théâtre. Moi, j'avais trouvé ça très bien, justement, qu'elle ressorte, parce qu'il y a cette dimension-là. Donc, voilà, un livre court, mais qui finalement ouvre pas mal de voies, et qui nous permet de relire différemment, ou de lire, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, différemment les premiers romans, mais peut-être aussi... même soumission, je pense, voilà.
Étienne Amantetti.
Mais dans cet esprit, en effet, il y a un mot que Houellebecq utilise au début du livre, c'est le mot gratitude. C'est-à-dire qu'avec ce livre qu'il a commencé il y a des années, mais qu'il achève, s'il accepte de le rendre public, c'est pour montrer la dette qu'il a vis-à-vis de Schopenhauer. Et c'est intéressant, le parallèle est intéressant. Les thèmes communs sont intéressants, et puis cette dette que Michel Houellebecq avoue avoir vis-à-vis de Schopenhauer est aussi intéressante, parce que parfois on a un peu l'impression que Houellebecq sort de nulle part, et que la statue est déjà entièrement achevée, alors qu'il y a eu un Houellebecq en construction qui s'inspirait de beaucoup beaucoup d'auteurs, et notamment de Schopenhauer, après Lovecraft, après effectivement Auguste Comte et même Pif le chien.
Mais cette gratitude, hein, elle est liée au fait, c'est Houellebecq le dit, hein, que il n'y a pas de lecture qui le réjouisse autant ou qui le mette autant dans un état d'excitation intellectuelle et de symbiose finalement que celle de Schopenhauer. Moi, je trouve que... Par contre, ça a quand même du mal à passer dans le commentaire. Je trouve que ça, c'est peut-être à l'image du Houellebecq qu'on connaît. C'est quand même pas sautillant, bondissant de joie et de béatitude quand même. Je trouve que la notion de plaisir de lecture, elle est quand même pas vraiment partagée par Houellebecq. Vous voyez ce que je veux dire,
Étienne
de Montetti?
Il accepte quelque chose. Parfois, je trouve qu'il fait une étude de texte presque un peu scolaire, un peu sérieuse.
Ouais.
On voit qu'il est concentré. C'est pas un mauvais élève du tout. Il est concentré sur son sujet. Il essaye véritablement de le comprendre. C'est assez touchant d'ailleurs. Mmh. C'est certainement le jeune homme encore en construction qui travaille. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit du côté de l'explosion de joie nietzschéenne,
ouais.
Avec le gai savoir. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais qui est intéressant parce qu'on le voit quasiment stylo à la main, en train d'essayer de sortir de Schopenhauer ce qu'il inspire. Il y a une phrase que j'ai notée à l'issue d'un long texte de Schopenhauer, et on voit les romans de Houellebecq qui naissent de cette lecture à l'évidence. Il écrit, alors ça c'est pas Schopenhauer, hein, c'est Houellebecq, il dit « La tragédie de la banalité produite par des circonstances ordinaires, rendue ainsi inéluctable, reste à écrire. » Bon ben, oui. Ça y est, il a vu à peu près de quel
œuvre.
Côté il irait, son œuvre. Alors s'il a réécrit ça a posteriori, j'en sais rien, mais voilà.
Philippe Chevillier.
Oui, je crois que la joie, c'est plutôt de l'ordre de la révélation. Alors justement, il y a c'est Agathe Novak le chevalier qui s'interroge là-dessus dans la préface. En disant, est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il a vraiment eu l'impression de rencontrer son alter ego. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues après, certaines réflexions ou certaines. Est-ce qu'il a pris des choses à Schopenhauer ou est-ce que tout d'un coup il s'est dit mais ça je le pensais avant et tout d'un coup il a vu cette fusion entre sa pensée et celle de Schopenhauer. Donc je pense qu'elle est de cet ordre-là, cette joie et cette révélation. Dans les textes, c'est pas c'est effectivement très très sérieux et très très appliqué,
très respectueux. Ben voilà, d'aller découvrir par vous-même ce livre En présence de Schopenhauer de Michel Houellebecq dans la collection Carnet aux éditions de Lerne. Vous êtes schopenhauerienne, Lucille Comeau.
Pas tellement.
Ça m'étonne pas. D'où la bonne ambiance au bureau. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse.
Quel architecte aurait souhaité démolir le Grand Palais dans les années 60 pour y planter un jardin de gratte-ciel? Et la réponse est Le Corbusier.
Il aurait voulu à peu près tout raser en même temps dans Paris, donc vous pouvez vous en servir à cette question. Bon, on fait gagner ce soir et on reste dans la thématique jardin, puisque ce sont les hors-séries Télérama, jardin en lien avec cette exposition au Grand Palais que nous faisons gagner. Quelle est la question, Lucille?
Dans quel jardin parisien public le couple de héros déambule-t-il, dont Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez aussi consulter utilement la page Facebook La Dispute FC, le compte Twitter Dispute FC également. Nous vous donnons rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Marie-Josée Sirach et Anna Sigalevitch. À notre affiche Vera de Petr Zelenka, mise en scène Élise Vigier et Martial Di Fonzobo, c'est en ce moment au Théâtre de la Ville, au Théâtre des Abbesses à Paris. L'état de siège d'Albert Camus, on en parlait tout à l'heure, mise en scène par Emmanuel de Marcimota au Théâtre de la Ville, à l'espace Pierre Cardin. Le spectacle se poursuivra lui aussi en tournée. Nous parlerons également du DVD du film 1789 d'Ariane Nouchkin et la troupe du Théâtre du Soleil. C'est en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique, filmé en 73 à la cartoucherie de Vincennes. Et puis Lucille Comeau passera un coup de fil à Laurent Cogé, metteur en scène du collectif Colette, pour le spectacle Pauline à la plage. D'après Eric Romer, ce sera la scène nationale d'Alençon. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.